Terre à Terre, le magazine de l'environnement, et bien ce matin, on retourne à la plage.
Ça fait 40 ans que cette plage est utilisée. 40 ans que des grands-parents, des parents, des petits-enfants la fréquentent et 40 ans qu'il n'y a pas d'incident majeur. Donc ça veut dire que la liberté que chacun s'est octroyée s'est passée dans le respect des gens, s'est passée dans le respect de la nature, s'est passée dans le respect de l'environnement. Donc c'est important que notre combat, même si ce n'est pas un combat armé, c'est un combat intelligent, c'est important que ce combat pour l'utilisation libre de la plage se fasse en se rappelant comment depuis 40 ans on utilise le Clemenceau. Alors, on va essayer de vous expliquer comment depuis le premier rassemblement du mois de mai, on a travaillé tous ensemble et comment on a avancé. Vous saviez qu'il y avait des associations qui font un énorme travail depuis des années. Mais là, on était dans une urgence de dire « attention, la plage risque de fermer l'année prochaine ». Donc dans cette urgence, ce sont simplement des usagers comme vous et moi qui se sont réunis avec l'aide des associations. Et à travers ce collectif, chacun a amené des actions qui sont maintenant le terreau de l'action finale. C'est-à-dire qu'on a écrit un manifeste dans lequel tous les arguments sont répertoriés. Les arguments humains, les arguments écologiques, les arguments sociaux, les arguments économiques. Ce manifeste va nous servir de base à donner le texte de base à l'avocate. Donc nous avons une avocate qui va défendre nos droits, une pétition qui a déjà récolté plus de 600 signatures. Ce manifeste va servir aussi pour la rencontre du préfet, la rencontre des politiques, toutes ces personnes-là qui vont être avec nous pour savoir comment contractualiser la plage. On a avec nous Sylvie, la photographe, ici avec Tova, elle est où Sylvie? Elle est en train de faire la banderole. Voilà, donc Sylvie qui est journaliste et qui a photographié Clemenceau depuis longtemps. Do est là, ça y est, ouf, mes copines arrivent. Donc Do qui a repris tous les arguments.
Do, j'aimerais que vous me racontiez comment ça se passe votre année. Comment, enfin, pas toute votre année, mais le moment où vous arrivez ici, comment ça s'organise, le temps que vous y passez.
D'abord, moi ce que j'aime dans cette plage, c'est que la plage, elle est habitée par des humains pendant 4-5 mois. Et pendant les autres mois, elle est sauvage. C'est-à-dire, elle revient à sa nature primordiale. On a le droit d'être ici que du 1er mai au mois de septembre. Donc pendant quelques mois, juste les mois d'été.
Vous êtes là dès le 1er mai?
Oui. Je viens ici parce que je vois loin, c'est l'horizon. Cette espèce d'horizon comme ça à 360 degrés, je trouve que ça fait du bien au cerveau, quoi. Bon, c'est personnel, mais ça fait des années que je vis ça comme ça. Donc en fait, voilà, le 1er mai, on arrive, on pose la caravane, même si on n'y reste pas.
Il y a du monde déjà?
Il y a tout le monde vient. Tout le monde vient le 1er mai. Après, il y a des gens qui vont venir pendant l'été apporter leur caravane. Bon, il va y avoir d'autres arrivées. Mais je dirais au départ, le 1er mai, la plage se structure.
Mais il doit y avoir des queues invraisamblables sur l'unique route qui mène au Salin de Giraud.
Bah, je sais pas, ça s'emboîte. Je sais pas comment ça marche, mais ça se fait. Après, il faut un 4x4 pour mettre une caravane ici. Donc, entre nous, on s'entraide. Il y a des gens qui ont des 4x4 aussi qui sont assez puissants pour les mettre sur le sable. Des fois, il faut deux 4x4 pour arriver même à sortir une caravane. Selon les années, quand il y a eu beaucoup de vent, qu'il y a des grandes dunes, donc ils s'y mettent à plusieurs. Bon, il y a ce côté collectivité, entraide.
Mais ça se fait pratiquement spontanément, ça?
Oui, ça s'organise tout seul. En fait, ça s'organise par relation, par quartier, par compétence. De l'extérieur, ça peut donner cette impression de quelque chose d'un petit peu désordonné, un peu chaotique, un peu carac, on va dire, hein, c'est franc. Et en même temps, de l'intérieur, c'est pas ça qu'on vit. Parce que de l'intérieur, chacun se fait un petit territoire. Alors c'est un territoire qui n'a rien à voir avec la propriété. Moi, je fais la différence entre la propriété et le territoire. Parce que la propriété, c'est dire, ça c'est chez moi pour tout le temps. Et le premier qui rentre, il n'est pas chez lui. Voilà. Ici, c'est pas ça qu'on sent. C'est que chacun se pose à un endroit et en même temps, il prend l'espace vital dont il a besoin pour son été.
Qui n'est pas immense.
Qui n'est pas immense. C'est juste un espace pour pouvoir être dans son intimité, s'il a envie d'être avec des gens qui lui sont proches, voilà, pour pouvoir passer des bons moments avec les gens qu'il aime. Donc c'est un espace comme ça. Et en même temps, ça me fait penser au territoire animal. Voilà. Ça me fait penser plutôt, l'animal, il a besoin d'un terrier. Il a besoin d'un endroit où il pose son abri et où il sait que dans cet abri, il va être en sécurité pendant le temps de repos. Et ça fait penser à ça ici. Quand on arrive, bon, c'est vrai qu'on se met un petit peu, toujours un peu dans les mêmes zones quand même. Hein. C'est une habitude qui se fait, puis des relations. En fait, ça fait des quartiers ici.
Bah, on est des animaux sociaux.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'éprouve depuis que je viens ici. Moi, je viens ici depuis 40 ans. Quand je suis tombée ici la première fois, je suis tombée amoureuse de ce lieu, mais c'était un coup de foudre, hein, quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc depuis, je reviens, et puis ça change, ça se transforme.
Mais ce que je me dis en vous écoutant, c'est que cet habitat dont vous parlez, c'est justement ce qu'on ne trouve plus dans les villes, ce qu'on ne trouve pas dans ces immeubles qui sont complètement standardisés, où tous les espaces sont identiques, homogènes.
C'est ça. Ici, chacun prend l'espace qui lui correspond. Alors ça, c'est ça qui fait aussi que ce n'est pas uniforme. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'espace, d'autres moins d'espace. Ça dépend ce qu'ils vivent, s'ils sont en famille, s'ils sont seuls, s'ils sont en couple, s'ils sont avec des amis. Du coup, les habitacles vont, les espaces de vie vont se transformer au fur et à mesure de la vie des gens. Et cette adaptabilité, elle est naturelle. Et ce qu'on retrouve ici, c'est un fonctionnement naturel. C'est ça qui m'a toujours intriguée. C'est comme si on faisait partie d'un village spontané, dont les lois ne sont pas écrites d'avance, et qui fait que la façon dont on fonctionne ensemble, il y a des espèces de règles tacites, qui sont des règles du bien vivre ensemble, de comment faire en sorte que ça soit agréable pour être ensemble. Bon, les gens qui aiment la nature sauvage viennent ici. Voilà, il faut aimer ça.
Vous y venez depuis longtemps ?
Oh, 30 ans.
Et moi, 40 ans. 40 ans.
Et vous vous êtes connue ici ?
Oui, c'est-à-dire que monsieur était sur la plage avec une caravane et moi je venais en voiture. Et puis il y avait du sable, comme il y a actuellement. Et pouf, dans un trou, je suis tombée devant sa caravane. Je peux laisser la voiture là ? Oui, pas de souci. Je vais continuer à promener. Et quand vous reviendrez, je vous ferai un petit café. Pour l'anecdote, il était dégueulasse. Mais je lui ai dit longtemps après. Donc voilà, et puis pendant un an, je continue à venir là, sur la plage, avec monsieur, on discutait.
Sur la plage, je garais la caravane, et puis on se voyait comme ça, quoi. Et puis comme elle dit, ça a duré un an. On s'est mis ensemble. On a dit, bon, on va se mettre ensemble. Et la saison d'après, en revenant sur la plage, en fin de saison presque, on s'est dit on va célébrer un mariage. Et on a fait un mariage sur la plage.
Sur la plage ?
Sur la plage ici, oui.
Avec un quad. Avec... Un quad, 10 mètres de voile qui traînait derrière, un petit string, ce qu'il fallait, et la corde au cou à mon homme. Et tous les amis, tout ce qui voulait venir. On a fait toute la plage, on a invité tout ce qui voulait venir.
Qu'est-ce que vous faites de vos journées ?
On se baigne.
On se baigne, ça c'est très important.
On marche.
Oui, moi je marche énormément.
Certaines pêchent, ouais. Il y en a qui sont pêcheurs.
De la photo, notamment photos il y a des années en arrière où il y a énormément de personnes qui faisaient des sculptures, beaucoup de sculptures. Et je me souviens, il y a 3 ans, un cheval magnifique au bord de l'eau. Une personne est venue avec un peu d'argent qui a dit « Moi, je te propose 1000 euros. »« Non, non, je ne le vends pas. » La dame a dit « Non, non, non. Je te propose 2000 euros. »« Non, non, non. 3000 euros. »« Non, non, non. » Je garde mon cheval. Un truc magnifique. Et donc, on a...
En bois flotté ?
En bois flotté, le bois qui était ramassé, oui. Des trucs magnifiques.
Et qui disparaissent à la fin de la saison ?
Oui, qui disparaissent. Le cheval, non. Le cheval, non.
Il y en a qui les emmènent chez eux. Hein.
Nous, on a notre bois de mariage.
Bois du mariage chez nous.
Magnifique à la maison. C'est un vieil olivier qu'on avait trouvé. Et à la maison, il y a un olivier planté à côté.
Ouais.
Et c'est quelque chose de magnifique. La plage, c'est... Nous y venions même l'hiver.
Ah oui, on y venait l'hiver, mais maintenant c'est défendu. Alors, on ne peut même plus venir. Non, on ne peut pas venir.
Interdit.
Interdit.
Nous avons eu des contraventions le 2 janvier.
C'est pas vrai.
2 janvier. Oui, sur la plage.
Vous devez vous arrêter au parking, là, sur la route. Là.
Oui, à
vous
Gatine.
Pouvez plus aller, vous garer, passer une nuit sur le sable avec votre camping-car. C'est devenu prohibé.
Ça fait un peu mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur.
Surtout que ben, l'hiver, il n'y a personne. Hein. On n'embête personne. Il y avait deux véhicules. Les gendarmes arrivent.
Oui,
et ils disent même pas, vous êtes en infraction, rien du tout. On demandait le papier. Et puis l'autre, il a sorti le carnet, il a fait le PV et tout.
Combien tu as payé ?
Ça fait 35 euros.
35 euros.
Et à partir tout de suite. Hein. Parce que si nous revoyaient dans l'après-midi, nous en faisions un autre. Ouais. Dit.
Qui est-ce ?
C'est ma voisine amie.
Et qu'elle est gentille, elle a apporté un plateau de café.
Oui, elle a amené un café pour vous et pour nous, quoi, pour qu'on partage. C'est sympa.
Adorable.
Voilà, mais bon, c'est l'esprit de la plage, quoi. C'est que, voilà, on fait un peu attention les uns aux autres. Peut-être parce qu'on vit sans frontières aussi.
Et vous ne vous sentez pas cerné non plus ? Ou observé ? Ou, enfin, il n'y a pas de curiosité mal placée ?
Je ne sens pas ça. Je ne sens pas ça. Je dirais, si ça peut arriver qu'il y ait des gens qui passent, parce que, alors, ici on est dans une part naturiste aussi, hein. Donc ça peut arriver qu'il y ait des gens qui passent, qui soient plus troubles, hein, on va le dire comme ça, dans leurs intentions. Et donc ils vont s'installer sur la plage avec des regards un peu louches. En général, ça c'est vraiment autogéré par l'ensemble du groupe. C'est-à-dire si vraiment on sent qu'il y a quelqu'un qui est trop trouble, il y a quelqu'un qui va aller le voir et lui dire « Écoute, là, faut pas que tu restes là. » Voilà. Ça va se faire. Il y a une protection qui se fait, qui est pas, c'est pas violent, hein. Bon, à part si vraiment quelqu'un arrive avec une hache, ce qui ne s'est jamais produit en 40 ans, donc je me dis, voilà. Donc moi, je me sens vachement en sécurité ici. Je me sens plus en sécurité ici que dans la ville où je vis.
Alors justement, on était au 1er mai, vous venez d'arriver avec votre caravane, vous l'installez, mais vous ne restez pas là tout de suite, vous travaillez.
Oui, je travaille, donc je repars, moi je vis à Marseille. Donc je travaille à Marseille, donc je repars dans la semaine, je reviens le week-end, ou je reviens, je viens, quoi. Et puis à des moments, je reste plus.
Vos vacances, vous les passez ici aussi ?
Oui. Moi, quand je pars en voyage lointain, je préfère partir à Pâques ou Vendôme dans l'année, comme ça. Parce que ici, on est tellement comblé par l'eau, par la beauté du lieu. C'est une des composantes très fortes ici, c'est que le lieu est beau et que les gens qui viennent ils sortent de chez eux, de leur caravane, et puis ils mettent leur table devant la mer. C'est 4 étoiles, ça. Quel est le resto ou l'hôtel qui vous permet de mettre les pieds dans le sable pour manger devant la mer? Des fois on installe la table juste au bord de l'eau, ou... c'est magnifique.
Vous avez installé des petites extensions, on va dire, à la fois très décorées, très jolies. Vous avez mis des bouts de bois qui font un peu... Je ne dirais pas que ça fait barrière, ça fait plutôt rampe d'éclairage, en
oui,
fait.
Oui, c'est ça, rampe d'éclairage. Bah, c'est-à-dire, quand on a posé la caravane, il y avait déjà ce grand bois, là, qui était sur le sable. Parce que comme on est à l'embouchure du Rhône, en fait, il y a plein de bois qui viennent.
Des bois flottés.
Des bois flottés. Et ben, du coup, nous, on a installé la caravane devant ce bois. Et ça m'a permis, oui, de mettre des éclairages dessus pour qu'on puisse repérer le lieu la nuit. Parce que la nuit, il n'y a pas d'éclairage. Donc, pour retrouver sa caravane, quand on va chez les uns, chez les autres, c'est... Et puis, bon, il y a une notion d'esthétique. Moi, je trouve que... Bon, cette année, on ne peut pas faire trop d'installations parce que c'était un peu réprimé, on va dire. En même temps, tout le monde... A pas le même rapport à l'esthétique, hein, je veux dire, on est des milliers sur cette plage, mais j'ai vu des installations extrêmement créatives. Il y a une énorme créativité ici. Et j'ai vu des choses magnifiques se construire avec les bois qui sont sur place. Et j'espère qu'on pourra continuer à intégrer cette créativité dans notre quotidien quand on est ici, parce que ça fait partie d'une spécificité du lieu.
Pourquoi ils ont interdit ça cette année ?
Je pense on se montre des films, hein, parce que on ne sait pas exactement quelles sont les vraies raisons. Le fait que ce soit une plage, la dernière plage sauvage en Europe, je pense que ça ne va pas avec l'esprit européen actuel. C'est que l'esprit européen actuel veut tout baliser, tout légiférer. Il faut qu'il n'y ait rien qui déborde. Il faut qu'il n'y ait rien qui ne soit pas soumis à une norme. Et ici, c'est tout le contraire de la norme. C'est une espèce de vie instinctive, collective, autogérée. Et je veux dire, depuis 40 ans que je viens ici, j'ai rien vécu de dur. Je suis là, je suis seule, j'ai pas peur, je suis tranquille, je me sens tranquille.
Il y a des mots qui n'ont pas leur place ici. Je pense à compétition, concurrence, réussite personnelle.
Ça prend un autre visage, je dirais ça prend un visage plus naturel. Le besoin de reconnaissance chez les humains est une composante première. Mais on n'est pas obligé de détruire l'autre pour ça. Ce qui est, je pense, une déviance dans la société dans laquelle on vit. On peut juste que chacun existe avec ce qu'il est et être reconnu pour sa spécificité. Et dans ce sens, ça me semble plus naturel. Voilà, parce que oui, on connaît les gens les uns les autres pour ce qu'ils sont, pour leurs qualités, pour leurs défauts. On vit sous le nez les uns des autres, on se sent. On se connaît plus par ressenti. Mais ça s'emboîte. Vraiment, moi, ce qui me fait drôle, c'est que je côtoie des gens ici que je ne côtoierai jamais dans ma vie ordinaire, enfin habituelle. Parce que ici, ça se passe bien.
Et ça pourrait pas bien se passer ailleurs.
Je pense que ça se passerait carrément pas. C'est pas que ça pourrait pas bien se passer, ça se passerait pas.
Là, vous pensez à quoi? Des différences d'origine sociale, des différences de métier?
Oui, des différences même d'univers intérieur. Il y a des univers intérieurs très très divers ici. On va avoir des artistes, on va avoir
des pêcheurs,
des pêcheurs,
des amateurs de taureaux de Camargue.
Voilà, on a tout ça. Moi personnellement, j'aime les animaux, donc je suis contre le fait qu'on aille leur faire des misères. Bon, donc, mais en même temps, je peux très bien côtoyer des gens qui aiment ça. Et ça me gêne pas. On s'accepte aussi. On s'accepte plus comme on est.
Et le rapport à la nature, vous parliez de ce rapport à la nature, d'eau, et quand on se penche sur ce qui se passe aujourd'hui à Pied-Manson, on s'aperçoit qu'il y a, par exemple, une organisation écologiste qui demande la fermeture de la plage en disant que les estivants abîmeraient cette nature sauvage que vous aimez tant.
Alors, moi, je vais parler de mon coin, parce que de mon quartier, parce que j'habite pas partout sur la plage, donc moi, j'habite principalement plutôt du côté proche du Rhône. C'est vrai que c'est des habitués qui sont là depuis très longtemps et qui préservent vraiment le lieu, qui ont vraiment le souci. Je veux dire, même si quelqu'un laisse quelque chose sur la plage, il y a quelqu'un qui va les ramasser, qui va le mettre dans une poubelle. On n'en parle même pas, ça se fait tout seul. Il y a un vrai amour du lieu et un vrai désir de le préserver. D'ailleurs, quand vous arrivez ici, vous regardez la plage, je veux dire, il n'y a personne qui vient la nettoyer, hein. Moi, j'habite à Marseille, je vais sur une plage publique. Si le lendemain matin, il n'y a pas quelqu'un qui a nettoyé dans la nuit, c'est une poubelle. Pourtant, il y a des poubelles partout sur la plage. Donc, je veux dire, une plage qui est polissée, qui est balisée avec des poubelles, avec des gens qui viennent ramasser les poubelles, etc., est plus sale qu'une plage qui est absolument autogérée. Donc, moi, je me dis, polisser un lieu n'a jamais appris à des gens à être citoyens. Voilà. Apprendre à des gens à être citoyens. Bon, ici, comme il y a plusieurs générations hein, qui sont venues ici, on a maintenant les petits-enfants qui arrivent, mais eux-mêmes, ils savent le faire, parce qu'ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents le faire. Donc pour eux, c'est naturel de faire ça. Moi, je crois à l'exemple, hein, je crois que si un enfant, il voit ses parents faire attention aux poubelles, jeter leurs trucs, ben, ils vont le faire.
Aujourd'hui, on a tendance à dire on va éduquer les enfants pour qu'ils éduquent leurs parents.
C'est possible. Moi, je crois qu'avant tout, on s'éduque soi. Et puis après, ça fait tache d'huile avec les gens avec qui on vit. La notion d'éducation me donne une impression un petit peu de contrainte. Alors, ce n'est pas de l'ordre de la contrainte. C'est de l'ordre de la conscience de ce que l'on aime. On va faire attention de ne pas l'abîmer. On va le préserver parce que s'il est en bon état, on va être d'autant plus heureux dedans. Pour moi, c'est avant tout une histoire d'amour plus qu'une histoire de règles ou de respect des règles. Ce lieu est beau. S'il est beau, j'ai envie de le garder beau. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis heureuse qu'il y ait des collectifs qui défendent la nature, qui se penchent sur ce qui se passe ici. Je trouve que c'est important. Maintenant, moi, ce que je vois en le vivant, c'est que il y a des oiseaux qui viennent le matin, le midi, dans la journée, ils se mettent là, ils se baladent, ils vont pêcher au bord de l'eau, sous notre nez. Il y a des oiseaux derrière, il y a des oiseaux dans les marais qui sont derrière. Depuis que je viens ici, il y a toujours eu des animaux autour de nous. Donc moi, je n'ai pas la sensation qu'on empêche les animaux d'exister ici. Bon. D'abord parce qu'on a des installations légères. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de télé, on n'a pas d'onde. On ne peut pas vivre de façon plus écolo que ça. Voilà. On est dans l'économie de l'eau, on amène notre eau, on fait attention. Donc je veux dire, c'est une vie très frugale au niveau de l'utilisation des énergies.
Et la question des déchets ?
Alors la question des déchets, moi je trouve ça très gérable, j'ai jamais eu de problème pour évacuer mes déchets. Je veux dire, quand je m'en vais, je prends mes poubelles, je les mets dans la benne en sortant. En fin de saison, je défais tout ce que j'ai pu installer. Et puis quand je m'en vais, il n'y a plus rien sur le lieu où j'étais. Donc quand je suis partie, il n'y a plus de traces de ma présence.
Les toilettes ?
Les toilettes, alors on est tous équipés soit de WC chimiques, soit de toilettes sèches. Ce qui est aussi facilement gérable. C'est pas très compliqué, franchement. Gérer ce qui est d'habitude proposé par la collectivité et le gérer de façon individuelle, moi, je trouve pas que ce soit lourd. Voilà. Ça, c'est une chose qui me semble importante. Parce que vraiment, on vit de façon écolo, ici. Maintenant, il y a toujours eu des gens, on est une collectivité de je sais pas combien de milliers de gens l'été. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi de l'extérieur, surtout dans la partie qui est plus accessible, parce que là, il y a beaucoup de sable sur la piste, donc ça devient difficile de passer à certains endroits. Donc les gens qui viennent de l'extérieur, ils vont rester dans une certaine zone. Et souvent c'est ceux-là quand même, qui parce qu'ils ne sont pas dans l'esprit de la plage, ils connaissent pas cette espèce de respect du lieu, d'amour de lieu, ils vont se comporter ici comme ils se comportent dans n'importe quelle plage qu'on va voir ailleurs, où les gens laissent leurs poubelles en plein milieu. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'y pensent pas, ça fait pas partie de leur façon de fonctionner, de respecter la nature comme si c'était un être à part entière. Sur cette plage, il y a une autogestion qui est vraiment importante, aussi au niveau du nettoyage de ceux qui laissent des choses sur la plage. L'ensemble de la communauté est très respectueuse du lieu et a vraiment une conscience de respect. Après, il y a des milliers de gens qui viennent ici, et comme dans toute collectivité, il y a des gens qui débordent. Ces débordements sont autogérés par les collectifs de la plage. C'est-à-dire qu'en fin de saison, il y a plusieurs personnes qui se mettent ensemble. C'est pas forcément des assos. Il y a des associations, il y a des gens qui sont hors association. Ils se rassemblent, ils prennent des camions et ils remballent tout ce qui peut encore traîner sur la plage qui ont été laissés par des gens. Donc c'est eux qui vont enlever les dernières traces. Et ça, si c'est pas les gens de la plage qui le font, ça devra forcément être fait par la collectivité.
Mais alors, ce sont des rumeurs quand on prétend que les vacanciers partent en abandonnant derrière eux des milliers de caravanes
Oui, c'est des rumeurs. C'est comme si dans une ville, on réduisait le fonctionnement des gens de la ville aux trois voyous qui vont faire des bêtises. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de collectivité où il n'y a pas de déviance. Ça fait partie de toute collectivité. Plus une collectivité est en harmonie, moins il y aura de déviance, je le pense. Mais on ne peut pas empêcher, je veux dire, ça c'est, ici c'est ouvert. Voilà.
Votre banderole, elle ressemble un peu à cet endroit. C'est vraiment une banderole fabriquée avec les moyens du bord.
Oui, exactement, avec de la récup, hein, de bambou, un drap qui sort d'une caravane et voilà.
Sauvons le dernier espace de liberté en Europe pour une utilisation libre et responsable de la plage de Pied-Mençon. Vraiment le dernier espace de liberté ?
Je crois qu'il n'existe pas d'autre endroit semblable en Europe. Et surtout avec cet esprit particulier lié à ce lieu, qui est quand même un espace, on pourrait dire presque autogéré. Je dis presque parce que la municipalité qui a mis à disposition des bennes à l'entrée de la plage. Mais sinon, pour tout le reste, c'est complètement autogéré. Hein.
D'où votre banderole sur un drap de lit.
Oui, voilà.
On est bien dans votre caravane, Syl Frémio et Tova Darling. On est vraiment face à la mer. On entend un petit peu les vagues ce soir et puis les enfants. C'est l'heure où la mère et les enfants s'excitent un petit peu le soir. Vous allez dormir ici ?
Oui, on va passer le week-end. Voilà, on va dormir ici ce soir et on repart sur Marseille demain soir.
En fait, l'été, à chaque fois que vous pouvez, vous venez ici ?
Oui, ben, moi je viens depuis pas mal d'années. Et ça fait la 4e ou 5e année, je crois, que je mets une caravane sur la plage. À partir du 1er mai, je m'installe. En général, je viens passer énormément de temps au mois de mai. Parce que jusqu'à maintenant, je construisais un tout petit peu autour de la caravane. Et puis cette année, exceptionnellement, je ne l'ai pas fait puisque ça nous a été strictement interdit.
Voilà. Qu'est-ce que vous construisiez ?
Bon, je faisais une petite palissade en bois pour me protéger du mistral et du vent d'est, parce qu'il peut être vraiment très très fort au mois de mai, au mois de juin. Et puis je faisais une tonnelle avec de la récup, hein, bambou, des cannes de Provence, voilà, pour protéger l'avant de la caravane du soleil. Parce qu'en journée, hein, de midi à 5h, voilà, le soleil est vraiment très très fort. Donc cette année, je reste dans ma caravane, dans ce créneau horaire.
Donc on y est bien dans votre caravane, mais on y était mieux avant.
Non, on y est toujours bien, c'est une autre manière de vivre la plage aussi, d'être qu'avec la caravane et sans la construction. Mais voilà, j'avais un petit peu peur au début de la saison, parce qu'effectivement on s'est dit comment on va faire avec le soleil, tout ça. Mais voilà, en ouvrant toutes les fenêtres, c'est très ventilé la journée, et c'est très agréable de rester aussi dans la caravane.
Et vous, Tova Darling, ça vous plaît aussi, cette façon de vivre les vacances, de vivre l'été ?
Mais oui, c'est mignon ici. Déjà, la caravane, elle ressemble un petit peu à une loge d'artistes, modeste artiste. Hein. Ça fait un peu musical, un peu old school, hein, parce qu'on a l'impression, elle est des années 70, je crois, la caravane. Alors, voilà, il y a beaucoup d'oranges, beaucoup de fleurs vieillottes. Mais tout de même, un certain esthétisme. Hein. C'est fin, c'est mignon, je trouve. Des miroirs, des petits rideaux fragiles, hein. Tout est fragile à l'intérieur. Hein. Mais voilà,
on dirait que vous la visitez.
Non, je la regarde parce que la question m'est posée en fait. Hein, mais je l'aime bien. S'il a une autre caravane dans les Cévennes aussi, qui est une très jolie caravane en fait. Hein, c'est aussi un peu le culte des vieilles caravanes en fait. C'est une autre histoire que celle de Pimenson, mais c'est une jolie histoire que les belles vieilles caravanes en fait.
Mais justement, venir à Pimenson pour vous, pour tous ceux qui sont autour de vous, sur cette plage immense, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour de la caravane ? C'est l'amour de la plage ? Parce que vous le disiez, s'il ferait mieux, ici, il y a des vents violents, il y a du sable à perte de vue. Vous ne l'avez pas encore précisé, mais il n'y a pas un seul arbre, il n'y a pas d'ombre. C'est des conditions rudes quand même.
Ben, moi, c'est ce qui me plaît à Pimenson, c'est être confronté aux éléments. Moi, ça me ramène vers l'essentiel. Là, par exemple, j'ai passé un moment un peu difficile il y a 10 jours, où il y a eu un peu comme ça des grandes remises en question par rapport à mon travail, par rapport à ma vie, quoi. Hein. Et je suis venue m'isoler pendant 4 jours. Et vraiment, ça m'a permis de prendre du recul et d'y voir plus clair dans tout ça, quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît énormément ici, c'est cette possibilité d'être à la fois isolé seul au milieu de centaines de gens. Et ça, je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est, on peut à la fois être comme ça dans une sorte de solitude, de repli sur soi, au milieu de la nature, hein, voilà, face à la grande bleue et voilà, ce ciel immense et tout ce sable. Et à la fois, quand même, ne pas se sentir si seul que ça, puisque il y a les gens autour et si on a envie, on peut aller vers eux très facilement. Et puis, voilà.
Si ce n'est que jusqu'à ce que vous nous disiez ça, s'il ferait mieux, on avait l'impression d'être chez des estivants. Et tout à coup, on se dit, mais alors, est-ce que ce sont des estivants qui sont là ? Tova Darling ?
Bah, j'ai l'impression, je connais la plage depuis beaucoup moins longtemps que Syl, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qui amène les gens ici, c'est des intérêts personnels très différents. Bon, je pense que la gratuité aussi, on pourra en parler, parce que la gratuité, c'est pas seulement au fond qu'il n'y ait pas d'argent. C'est aussi tout d'un coup un espace qui est ouvert, c'est-à-dire un espace qui n'est pas organisé avec une structure, un cadre qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire il y a de l'argent, donc il y a des représentants d'un certain ordre, notablement qui s'occupent de la propreté, par exemple, ou d'une qualité de silence, puisqu'on est en vacances et qu'en principe les gens vont se reposer. Ici, on n'est absolument pas dans ce contexte-là.
Pourquoi est-ce que vous employez ce terme de gratuité ? C'est curieux et intéressant.
Mais la gratuité, ici, c'est pas simplement donc qu'il n'y ait pas d'argent.
Il n'y a pas d'argent parce que c'est pas payant, ici.
Voilà. Il n'y a pas d'argent, c'est pas payant. Et en plus, moi, j'y tiens beaucoup ici, par exemple, au fait qu'il n'y a pas de commerçants. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Parce que je crois que tout d'un coup, ça introduit un autre rapport à l'espace, un autre rapport déjà en termes purement visuels. Hein. C'est vrai que souvent dans les villes, c'est assez consternant que tous les rez-de-chaussée sont accaparés par les boutiques avec des propositions d'achat permanentes, avec des éclairages, etc. Ici, ce qui est merveilleux, c'est qu'effectivement, il n'y a à perte de vue que des caravanes, des mobil-hommes ou des camions, enfin camions aménagés. Donc l'espace est libre. Deuxième point important, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage public. Et donc, tout d'un coup, on a ce rapport à la nuit ici qui est extrêmement... Que moi, j'ai, par exemple, m'a bouleversé. Bon, j'ai vécu en Afrique, et j'ai vécu à Brazzaville, au Congo. Et c'est vrai que c'est la plupart des rues qui sont, on appelle des ruelles, elles sont de sable. Et je sais par expérience que le sable génère toute une culture, en fait, de la marche, de la lenteur, etc. Par exemple, comme là-bas aussi, l'électricité, enfin à l'époque, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, était quand même un bien précieux, rare même. Donc la plupart des gens s'éclairent à la lampe à pétrole. Et effectivement, ça laisse vivre la nuit, en fait. C'est-à-dire ça laisse vivre l'obscurité avec tout ce que ça peut déployer au niveau de l'imaginaire comme rapport secret et d'intimité à l'autre. Et ça, c'est important. Et on vit ça ici, réellement. On vit des nuits qui sont tout à fait magiques, quoi.
Quelque chose qui m'a frappé aussi, dont vous ne parlez pas, c'est l'absence de chaussées et de trottoirs. Et on pourrait imaginer des espaces totalement livrés à la voiture, et c'est l'inverse. Il y a effectivement des voitures qui circulent, il y a des chevaux, il y a des 4x4, il y a des caravanes, des bus, des camions, des piétons, et tout ça circule avec cette lenteur que vous étiez en train d'évoquer, cette tranquillité, et on a l'impression que l'espace est rendu aux humains, bien qu'il y ait des véhicules.
Oui, puis après, voilà, ça fait partie de le côté autogéré aussi du lieu. Donc je pense que tout le monde est conscient de tout ça, donc tout le monde fait attention et ça se passe bien, quoi. Et pour en revenir aussi à le fait qu'il n'y ait pas d'éclairage, personne vit dans l'insécurité ici, quoi. Je veux dire, moi je suis une fille, une femme seule, hein, Tova vient me visiter de temps en temps, vient passer du temps avec moi depuis l'année dernière. Mais moi j'ai passé énormément de temps toute seule, je ne me suis jamais sentie en insécurité ici, quoi, pied mon sang, quoi. Je ne m'enferme pas à clé dans ma caravane la nuit, quoi. Et je suis photographe et je fais un travail de photographie de nuit. Bon, Tova n'a plus trop envie que je le fasse parce qu'il est toujours inquiet pour ma sécurité, justement. Mais moi, j'ai arpenté la plage à partir de minuit jusqu'à 5h du matin toute seule. Il ne m'est jamais rien arrivé de fâcheux, quoi, en tout cas. Même si ça m'arrivait de rencontrer des gens un peu sous de nuit qui, d'un coup, étaient surpris de me voir dans la nuit, quoi. J'ai toujours pu discuter avec eux et il n'y a jamais eu aucun problème. Voilà.
Qu'est-ce que vous cherchiez à voir la nuit, s'il ferait mieux ?
Ben justement, ce côté intime de la nuit. Et ce qui m'a toujours attirée, c'est tous les gens qui se mettent à l'abri la nuit à l'intérieur des caravanes. Et cette ambiance lumineuse, intimiste des caravanes qui, voilà, que je trouve à la fois poétique et qui renferme ses petits secrets. Voilà, je trouve ça... voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attirée à Pied-Mensant dans mon travail de photographie.
Par contre, quelque chose qui me semble très intéressant ici, c'est on est aussi dans une forme de fiction. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde par la fenêtre de la caravane, au loin, là, je vois les usines de fosses, qui sont réellement à peut-être à 15 km. Et un peu plus loin, il y a le delta du Rhône. Et donc le Rhône, avec toutes ses alluvions, on peut imaginer lesquelles, se déverse dans la mer. Et effectivement, voilà, c'est également à quelques encablures. Et donc, en fait, on est sur une espèce d'îlot, en fait, en quelque sorte. Et On est également entouré, ce qui renforce encore plus, je dirais, l'incongruité de la situation par le parc régional de Camargue, avec les flamants roses, donc une espèce protégée dans le monde, puisque c'est très très rare les endroits où ils vont nicher. Et donc il y a réellement des ornithologues du monde entier qui viennent ici. Et donc on est dans ce contexte-là, c'est-à-dire d'un endroit qui est surprotégé et d'un endroit qui est surexposé, quoi. Et donc on est quelque part dans une espèce de zone intermédiaire où finalement l'humain peut à bon escient créer une zone de non-droit, puisque finalement on n'a pas réellement à être là, puisque si on se met à être un peu rationnel, on se dit mais comment ont-ils fait pour faire côtoyer un des plus grands complexes industriels d'un parc régional tranquillement, sans état d'âme. Voilà, c'est juste pour indiquer qu'en fait, ici, c'est un peu le petit village d'Astérix avec les occupants autour, quoi. C'est-à-dire que, voilà, bien sûr, je pense que c'est pas tout le monde non plus qui a envie de venir dans un espace où, voilà, on côtoie des formes de pollution qui sont tout de même, extrêmement dangereuses, hein, voilà.
Mais vous soulevez un certain nombre de paradoxes qui me paraissent effectivement tout à fait curieux, Tova Darling. Vous dites, tout le monde n'aurait pas envie de venir ici. C'est vrai, quand on regarde ce lieu, on se dit, mais qui peut avoir envie de venir ici? 15 000 à 20 000 personnes, tous les étés, c'est pas rien. Puis vous dites, c'est une fiction. Mais la réalité, c'est ce que disait Syl Frémio, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de difficultés majeures, on pourrait imaginer l'anarchie. Vous avez parlé de zones de non-droit, vous avez parlé d'autogestion. On a évoqué ce mélange entre voitures, piétons. C'est aussi un mélange entre des gens de tous âges, de tous horizons, qui ne se connaissent pas nécessairement. Qu'est-ce qui fait que ça tient? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ici une sorte de magie ou de pacte?
Oui, juste une intervention sur le mot anarchie. Ça pourrait être l'anarchie. Bon, je trouve que l'anarchie, c'est une belle chose. Hein, et qu'effectivement, c'est un peu délicat d'être réellement dans l'anarchie, c'est-à-dire anarchia sans commandement. Donc, effectivement, c'est pourtant ce qui se passe ici, d'une certaine manière. Et c'est pourquoi, en fait, on a évoqué avec quelques-uns l'idée d'une zone d'autonomie temporaire. Et effectivement, je crois qu'il y a une forme de spontanéité, d'expérimentation sociale qui se joue ici, en effet, avec, je dirais, ces excès, hein, c'est-à-dire, par exemple, l'irrespect total, spectaculaire même, des gens qui font un bruit, et en même temps, des formes de solidarité qui sont réellement absolument inhabituelles. Enfin, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'ensabler sur la piste, je veux dire, il y aura à peu près d'évidence quelqu'un qui peut rendre service, qui le fera aussitôt. Et on est dans le sud-est de la France, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le nord, parce qu'on sait bien qu'effectivement, dans les climats un peu, ou dans des zones un peu ouvrières, il y a une solidarité de tradition ici. On n'est pas du tout dans ce contexte-là, parce que c'est des gens, il y a beaucoup de gens de Marseille, de Camargue, qui viennent fréquenter la plage, mais il y a aussi des Européens, Belges, Allemands, Hollandais, hein, etc. C'est un grand maelstrom. Mais en tout cas, ce que je voulais juste, je me suis permis de parler d'anarchie, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois que l'idée qu'il n'y ait pas de contrôle social, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gendarmerie pour régler les problèmes, qu'il n'y ait pas de police pour régler les conflits entre les gens, le fait par exemple que chacun organise sa vie, son rapport à l'eau, puisqu'on doit amener son eau, il n'y a pas d'électricité non plus, donc cette forme d'autogestion dont parlait Syl, effectivement, c'est quelque chose qui est très précieux, parce que enfin, ça donne une représentation de l'humanité qui n'est pas négative. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça dont on souffre profondément. C'est-à-dire qu'on est censé aller tous vers une catastrophe absolument inévitable, et de toute façon, on ne peut rien faire. Et il n'y a aucune autre alternative. Sinon, patienter et en effet, espérer que la science, la technique trouvera in fine une solution pour nous préserver des conséquences inévitables, puisque déjà on est déjà dans le changement climatique, on est déjà dans la catastrophe, on y est déjà. Donc, et on ne peut rien faire. Donc là, pour une fois, effectivement, je ne sais pas si en effet on pourra faire quelque chose, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'ici maintenant on fait des choses. Voilà.
Mais justement, concrètement, comment ça se passe ici? C'est chacun pour soi, vous avez parlé de la solidarité, l'eau. Chacun va chercher son eau, l'électricité, chacun apporte son électricité, Syl Frémio.
Oui, en fait, chacun emmène son eau. Hein. Après, on a les pompiers au salon. Donc chez qui on va se ravitailler en eau, hein, on paye 2 euros je crois des 120 litres. Donc chacun emmène ses bidons, tout ça, ses jerricanes. Et pour l'électricité, alors il y a quelques personnes qui sont équipées en panneaux solaires, des petits panneaux, avec des systèmes de batterie. Sinon, là, quand même, la plupart des gens ont ou les bougies ou des petites lampes solaires. Voilà, on fait vraiment avec des petits moyens. Et sinon, il y a quand même quelque chose qui m'avait frappé, c'est la réaction d'un ami qui est venu la première fois l'année dernière me voir. Et donc devant ma caravane, il y avait une petite dune qui s'était formée, donc on pouvait surplomber un tout petit peu par rapport au niveau de la mer, et qui regardait comme ça à perte de vue toutes ces caravanes, et qui m'avait dit c'est frappant, ça fait penser à un camp de réfugiés. Voilà. Et c'est vrai que ça m'avait marqué aussi sa réflexion. Je trouvais intéressant quoi cette vision du camp de réfugiés par rapport à ce que Thomas vient de dire. Hein. Effectivement, moi j'ai l'impression d'être un peu au bord du monde. Et c'est un peu comme ça, un petit îlot, une petite oasis où on vient chercher cet espace un peu de respiration dans le chaos un peu environnant et un peu mondial quoi, dans lequel on est plongé aujourd'hui quoi. Hein. Voilà, il y a un petit peu quelque chose de ça quoi.
Décidément. On va de surprise en surprise avec vous, Cécile Frémiot. Moi, je pensais plutôt à une ZAD, et voilà que vous nous amenez du côté des camps de réfugiés. On en viendrait presque à penser que ça peut être bien un camp de réfugiés, c'est difficile, on ne va pas aller jusque-là. Mais moi, je pensais à une ZAD parce que la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est bien parce que cet endroit au bord du monde que vous avez décrit, très joliment, il est en train d'être menacé d'être happé par le monde. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que cette année, vous n'aviez pas construit votre palissade, votre tonnelle. Et de fait, Pied-Manson, sur ces 25 km de plage, on a connu des constructions en bois flotté absolument extraordinaires. Vous en avez photographié vous-même beaucoup. Cette année, il n'y en a plus une seule. Il ne reste plus que les caravanes, les bobylômes, les camping-cars issus de l'industrie. Il n'y a plus ces constructions tellement humaines, tellement éphémères, singulières, qui émaillaient cette plage.
Oui, ça fait vraiment mal au cœur. Il y a eu un interdit hein, qui nous a été communiqué par la gendarmerie. Donc dès le 1er mai, il a été interdit de continuer à construire comme on le faisait les autres années, les cabanons. Enfin les cabanons, c'est pas tout à fait des cabanons, c'est plutôt des sortes de palissades donc pour se protéger du vent et des tonnelles, des choses comme ça. Et effectivement, ce qui était magnifique hein, et très touchant, c'est toute cette créativité déployée par tout le monde. Donc chacun y mettait de sa récup. Donc moi, par exemple, à Marseille, je passais l'hiver à récupérer des planches, des poteaux jetés dans la rue. Et puis je mettais ça sur ma terrasse. Et puis le 1er mai, je venais avec deux voitures chargées. Et puis avec toute cette récup, on fabriquait quoi. Et c'est ça qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait toutes sortes de matériaux et chacun y allait de sa créativité. Donc ça prenait des formes complètement insolites. Ça a disparu et il y a quelque chose de ce charme-là effectivement qui n'est plus à Pied-Manson. Et voilà, Pied-Manson pour nous en début de saison était un peu dénaturé quoi. Voilà. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus lisse parce que c'est juste l'alignement des caravanes et des camping-cars. Il faut faire avec ça, quoi.
Il faut faire, enfin, pas tellement, puisque je te rappelle que tu es à l'origine d'un collectif de lutte pour maintenir l'espace de liberté de Pied-Manson. En fait, voilà, l'idée, c'est que peut-être il y a encore des choses à faire. Alors, la question qui se pose.
Le collectif, c'est ouais. Les Robinsons de Pied-Manson.
Oui, ça a été cette idée-là, oui, les Robinsons de Pied-Manson. En fait, la difficulté, c'est d'essayer de comprendre exactement le pourtour juridique de cette situation de Pied-Manson, qui est assez complexe. Hein. Enfin, pour l'instant, moi, je n'ai pas démêlé tous les tenants des aboutissants. Il semblerait qu'en effet, les salins de midi qui possèdent une partie de la plage maintiennent une sorte de pression vis-à-vis des politiques en acceptant, au fond, qu'il y ait une occupation illégale des lieux. Alors, pourquoi ces salins de midi qui ont vendu la plupart de leurs terrain à l'État, au parc national. Pourquoi
il laisse... Au conservateur du littoral, 8000 hectares.
Voilà, au conservateur du littoral. Donc, pour quelle raison ces kilomètres de plage où est installé le Pied-Mençon subsistent? Effectivement, il y a une réelle interrogation. Et pour ma part, si je m'en réfère à un article paru dans la presse, dans Le Monde en particulier, il semblerait que ce soit... simplement des intérêts personnels entre quelqu'un de la direction des Salines du Midi et les politiques, en fait, qui fait qu'il y aurait cette espèce de libéralité mystérieuse depuis plusieurs décades. Bon, à présent, on a appris récemment que, finalement, dans l'espace sur la plage, il y a une autre partie qui n'appartiendrait pas aux Salines du Midi. Et effectivement, bon, là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi, à ce moment-là, d'ailleurs, c'est toute la partie gauche quand on arrive de la route. Voilà. Donc, on n'a pas encore démêlé tout à fait cette histoire. C'est vraiment un imbroglio et apparemment, pour l'instant, l'hypothèse d'une histoire à la marseillaise, ou en tout cas à la méridionale, apparaîtrait, c'est-à-dire qu'on a un conflit larvé entre des personnes. Et bon.
Mais qu'est-ce qui vous inquiète exactement dans tout ça? Parce que là, on a l'impression d'une affaire vraiment un peu complexe et obscure, mais pourquoi est-ce que vous êtes si inquiet? Pourquoi est-ce que vous avez créé ce comité? Simplement pour garder le droit de continuer à construire avec des bois flottés et de la récupération? Non, ça va plus loin.
Non, c'est-à-dire qu'il y a eu réellement, chaque année, enfin depuis que je viens ici, c'est-à-dire finalement depuis peu de temps, il y a une espèce de menace, une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur Pied-Mençon. Il y a réellement de la propagande qui est faite autour de la plage. Pied-Mençon, Honte de la Camargue, il y a des associations qui sont extrêmement actives et qui se plaignent qu'effectivement il y ait ce qu'on pourrait appeler, et ce qui est réellement une forme de squat, puisque encore une fois, je parlais de gratuité tout à l'heure, et effectivement il n'y a pas d'accès payant à la plage. Voilà. Donc la question qui se posait dans le collectif, c'est comment faire en sorte que les gens qui utilisent la plage, et qui ne sont pas forcément en connexion, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des étrangers, il y a des gens de la région, il y a des gens de toute la France. Comment faire en sorte que ces gens-là soient au courant de la situation et en même temps aient envie de la défendre, cette situation? C'est-à-dire, en fait, en gros, la question, est-ce que, sur un plan comme ça politique, est-ce qu'il peut y avoir une classe sans conscience de classe? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir, effectivement, je veux dire, des défenseurs de Pied-Mençon? Si Pied-Mençon, c'est pas une unité quelque part avec une situation très particulière qu'il s'agit de connaître pour pouvoir la défendre. Et donc, en fait, le problème, il est là. C'est-à-dire, c'est qu'on est dans une espèce de mystère au niveau des informations. Et ce mystère-là, à un moment donné, on s'est dit, bon, ben voilà, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Donc là, en ce moment, on a des démarches au niveau du cadastre pour savoir qui est réellement propriétaire. Et effectivement, dans ce cas-là, je veux dire, il est clair qu'une partie de la plage appartient à un propriétaire privé, donc les Salines du Midi. Une autre partie de la plage appartiendrait au conservateur du littoral. Donc, effectivement, les intérêts ne sont pas les mêmes. D'un côté, c'est l'État, de l'autre côté, c'est un particulier. Voilà, d'essayer un peu de cerner la situation et d'entreprendre ensuite des actions en rapport.
Mais alors, c'est encore un paradoxe, là. Lutte politique sur une plage. Tout à l'heure, j'ai évoqué les ZAD. Vous n'avez pas saisi la balle au bon, mais là, tout à coup, ça revient. Et une lutte politique sur la plage, Tova Darling.
La fantaisie dont ont besoin les luttes politiques aujourd'hui, ben elle est là, en fait. Voilà, c'est une illustration. Et le plus drôle étant que, bon, au-delà de la formulation, les luttes politiques sur la plage, on l'a réellement expérimenté. Par exemple, là, on a une banderole qu'on a promenée sur la plage, au milieu des baigneurs. La banderole est écrite, donc, « Sauvons le dernier espace de liberté en Europe pour une utilisation libre et responsable de la plage de Pied-Mençon », ben, ce qui est formidable, c'est que on l'a réellement fait sans intention. C'est-à-dire qu'on revenait d'un rassemblement où on avait déployé la banderole et on rentrait gentiment vers nos caravanes. Et soudain...
On était quatre, hein. C'était vraiment une marche silencieuse le long de la plage.
Bon, on était contents parce qu'on avait initié un débat chez Cathy, c'est-à-dire la guinguette au bout de la plage. Bon, qui s'était plutôt bien passé, on a vu que vraiment, il y a des gens qui étaient mobilisés. Et donc, on est revenu, donc, sans intention avec cette banderole. Donc, on l'a déployée, mais on l'avait absolument pas décidée. Et c'est là, à ce moment-là, on était en maillot de bain, tu vois le truc. Et il y avait des gens en maillot de bain autour de nous. Mon chien qui suivait derrière. Une scène absolument, innocente et estivale. Et la magie de la chose, c'est que les gens venaient maintenant vers nous et nous demandaient
que ce qu'on avait écrit sur sa demande de rôle et qu'effectivement, eux aussi, ils trouvaient que c'était important de défendre la plage. Mais en réalité, c'est-à-dire qu'on était en train de mobiliser les gens de façon absolument inattendue, y compris pour nous-mêmes. C'était réellement, on pourrait dire que presque c'était, ça aurait pu être une sorte de perf improvisée, quoi. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que voilà, la fantaisie, la surprise et la magie opère.
L'image que j'ai, c'est celle d'une manifestation qui s'agglomère au fur et à mesure que vous avancez sur la plage. C'était quand même pas ça.
Non, c'était pas ça, parce qu'effectivement, le baigneur est individualiste, hein, effectivement.
C'est pas tant ça, c'est juste que c'était en fin de journée. Donc, il était quand même 8 heures du soir, mais je pense qu'on l'aurait fait le matin. Ça aurait pu se passer, comme vous le dites, hein.
Enfin, parce que les gens vraiment étaient touchés par ce qu'ils lisaient et du coup, ils réagissaient.
Ah oui, complètement, parce qu'il y a vraiment, vraiment des amoureux de Piémont-Saint, vraiment profondément, hein. Et même des gens du week-end, hein, qui viennent en week-end, mais qui aiment ce lieu et qui sont très sensibles et qui, nous voyant avec notre banderole, ont été vraiment touchés et qui n'étaient pas au courant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent le lieu qui sont pas au courant de ce qui se passe. Donc là, c'était vraiment mettre d'un coup à jour, hein, cette problématique là de cette plage qui est menacée de fermer à tout moment. Bon, elle est menacée depuis quand même pas mal d'années, mais là vraiment d'une manière beaucoup plus précise cette année, quoi, hein. Bon, ça suit un petit peu tout ce qui s'est passé à Bauduc ces dernières années, et voilà, en tout cas, ce qui est quand même incroyable, c'est cette lutte politique dans un lieu de vacances de camping sauvage, quoi.
Après, on peut y voir quelque chose d'emblématique d'une posture de l'époque, c'est-à-dire où effectivement on est à la fois dans une sorte de volonté, mais une volonté qui n'a pas envie de s'enfermer dans une espèce de militantisme, dans un cadre trop rigide, et en même temps dans un lâcher-prise, précisément par rapport à tout ce qui pourrait rigidifier des propos ou amener de nouveaux prophètes ou de nouveaux leaders. Ça, je crois qu'on est vraiment dans une dimension beaucoup plus individuelle, et on est on récupère un peu de son espace-temps personnel, et en même temps, on commence à s'ouvrir à nouveau à des problématiques des déplacements.
À des problématiques ou aux autres aussi, tout simplement.
C'est bien de ça dont il s'agit, en effet, les autres. Tout simplement.
Comme chaque année, les Robinson de Piémont-Saint ont plié bagages le 31 août, avec la crainte que ce soit pour la dernière fois. Cette année, l'inquiétude est plus forte. La police est venue faire plusieurs fois pression pour que la date limite soit strictement respectée. Et surtout, les projets d'immobilier et de parking payants venant supplanter l'espace ouvert de la plage prennent de la consistance. Mais les habitués n'ont pas dit leur dernier mot. Ils préparent déjà le retour, début mai 2016. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un lien vers les Robinson de Piémont-Saint. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Cédric Chatelus, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.